Bon, là, il y a deux corps aussi. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en ait deux. C'est la structure du phonème qu'il faut prendre comme point de départ. Du phonème chez Baudouin de Courtenay, pas du signe saussurien. Il faut suivre la critique du signe saussurien par Lacan. Et on va y venir petit à petit. Mais vous voyez que ce qui se passe dans le miroir, c'est que tout le monde croit que le corps, il a une image inversée dans le miroir. Oui, il a une image inversée, il y a une opposition. Il y a une main droite et une main gauche. Alors on vous dit le miroir inverse la droite et la gauche. Ben moi je vous dis que c'est faux. Le miroir transforme une main droite en main gauche, mais pas la droite et la gauche. Il n'inverse pas la droite et la gauche. Alors vous allez me dire, mais vous êtes couillon, monsieur. Regardez, vous voyez, là il y a un truc écrit là, sur ce papier. Regardez, je le mets devant le miroir. Là. Vous n'avez qu'à faire ça chez vous. Vous prenez un truc écrit, vous le mettez devant le miroir, et vous voyez bien que c'est inversé. Vous voyez, là il y a marqué Lacan, je peux le lire, et puis là je ne peux pas le lire, parce que c'est un os miroir. Ça commence par le L, mais même le L est inversé. Donc ce serait plutôt nacal, même pas, parce que même les lettres sont inversées. Alors, vous voyez bien que le miroir inverse la droite et la gauche. Bah, pas du tout. Vous voulez que je vous démontre que c'est faux? Bah, regardez, ce qui se passe avec un truc écrit que vous montrez dans le miroir, c'est pas le miroir qui inverse la droite et la gauche, c'est vous qui l'inversez. Regardez, quand vous lisez comme ça, vous lisez avec le, vous l'avez mis à l'endroit de vous. Hein? Et quand vous le présentez au miroir, vous le tournez, c'est vous qui inversez la droite et la gauche. Faites passer ce qui est à gauche à droite et ce qui est à droite à gauche en le présentant au miroir. Vous voulez que je vous prouve que j'ai raison? Eh bien, je vous le prouve en vous disant que le miroir, à ce moment-là, il devrait aussi inverser le haut et le bas, parce que, regardez, quand je présente le livre comme ça, il a la tête en bas, le texte, et la droite et la gauche sont restées à leur place. Hein? C'est un bon test, ça. Donc, il faut réfléchir. Moi, c'est quand Christian Santerre a dit le miroir inverse la droite et la gauche dans la lettre topologique, j'ai dit non, c'est pas possible. Le miroir étant un objet physique isotope dans toutes les directions, dans les deux directions, dans les deux dimensions, il y a deux dimensions dans le miroir, c'est quelque chose qui est plat. Si le miroir inversait la droite et la gauche, comme n'importe quelle surface, il devrait inverser le haut et le bas, puisque tout c'est isotope, c'est homogène. Il n'y a pas de singularité dans le miroir qui permettrait. Bon. La seule singularité qu'il y a, c'est que quand les objets sont de dimension 3, il y a une dimension qui s'appelle sagittale, qui est une troisième dimension par rapport aux deux dimensions du miroir. Vous ferez l'expérience, les objets plats sont toujours identiques à leur image dans le miroir. Donc apparaît la fonction d'une dimension, c'est ça la dimension phallique. Dans le miroir. C'est l'importance de cette troisième dimension. Elle est troisième. Alors c'est la dimension phallique, c'est la dimension sagittale qui est inversée. Mais les choses plates ne sont pas inversées. Exemple, prenez un deuxième exercice que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez un papier, vous mettez sur ce papier, vous mettez votre main, vous mettez votre main à plat, vous prenez un crayon et vous dessinez le profil de votre main. Vous découpez ça et vous allez avoir une main plate. Et vous la présentez au miroir. Vous verrez que cette main, elle est ni droite ni gauche. Vous pouvez la mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Si elle est parfaitement plate, pourquoi nos mains ont... Pourquoi il y a une main droite et une main gauche? Parce qu'elles ont un volume. Elles sont de dimension 3, les mains. C'est seulement les objets de dimension 3 qui s'inversent dans le miroir, pas les objets plats de dimension 3. Premier, donc deuxième, on va dire, là, deuxième résultat, enfin, ça fait déjà même un théorème. Hein. Les objets de dimension 2 sont identiques à leur image dans le miroir, les objets de dimension 3 ont une dimension inversée. Et alors certains me disent, mais c'est la dimension sagittale, donc on sait ce que c'est. Et alors c'est là que vous allez trouver le nœud roméen, la fonction paternelle, c'est ce que vous préférez. On va voir pourquoi ensuite Lacan appelle ça la fonction paternelle, effectivement. Mais c'est pas très compliqué. C'est que, donc, vous voyez, Dans le narcissisme, la difficulté du paranoïaque avec le signifiant du nom du père, la fonction du nom du père comme signifiant, c'est ce signifiant banal et exceptionnel. Mais ça ne prend corps que dans le miroir, que dans le narcissisme, ni dans le trauma, ni dans l'incorporation. Seulement dans ce troisième temps de composition du trauma et de l'incorporation. Quand le corps, qui est deux corps, va pouvoir être, on va dire, manipulé, le sujet va commencer à pouvoir s'en servir comme une marionnette grâce à une dimension énigmatique, on pourrait parler des fibres, c'est les rayons divins de Schreber même, et nous sommes des marionnettes. Et vous voyez que c'est la dimension phallique, la dimension de la parole, la dimension énigmatique du dire, le fait de dire, qui est fondamentalement inconscient, puisque c'est parfaitement incorporel. Ce que je dis, ça peut être des signifiants, c'est du corps, c'est de l'air qui bouge, c'est du son. Mais le fait de dire, c'est quelque chose qui est non seulement incorporel, mais qui en plus est quelque chose qui m'échappe constamment, qui reste toujours énigmatique. Puisque si je veux parler du fait que j'ai parlé, je suis obligé de parler de nouveau. Et donc je suis obligé de produire une nouvelle énonciation pour parler de l'énonciation. Donc l'énonciation, j'arrive jamais, c'est comme une savonnette. Non, il dit de la métonymie de l'objet, là. C'est comme ça, venait. Ça commence comme ça, avec la parole. Hein, c'est ce qu'il faisait dire à Frege, on ne peut pas définir la vérité. Pourquoi dit-il? Parce que la formule de Tarsi, c'est dire la neige est blanche, c'est vrai, c'est seulement si la neige est blanche. Et donc, vous constatez que de dire que quelque chose est vrai, c'est exactement équivalent le fait de dire la phrase qui dit que telle phrase est vraie, ça a la même valeur de vérité que la phrase en question. Si vous dites la neige est verte, est vrai, ben vous voyez bien que la neige est verte est vraie, comme la neige est verte c'est faux, la neige est verte est vraie c'est faux. Donc ça a la même valeur que la neige est verte. Donc n'importe quel énoncé, qu'il soit vrai ou faux, de dire que c'est vrai, ça ne fait jamais que de dire, ça a la valeur de vérité de la phrase en question. Et ça change avec chaque phrase. Donc, on ne peut pas dire... Voilà, Frege, il résume ça comme ça, et c'est très joli, il dit... Ça ne sert à rien de dire que quelque chose est vrai, ça n'ajoute rien à la vérité de cette chose. Vous voyez, vous voyez dans les sociétés paranoïaques comme la nôtre, où on dit, c'est vrai ce que je vous dis, je l'ai lu dans le journal, ou vu à la télé. Ah ouais, les publicistes, c'est ça. Vous voyez, c'est bon, là, mon produit, là, vous pouvez l'acheter, vu à la télé, vous comprenez? C'est la patente. Non. Je l'ai lu dans le journal. Ça ne prouve rien. Et même la parole, elle-même, elle est définie par là. Alors, l'autiste, on comprend qu'il ait rejeté ça. Et qu'on en fasse de plus en plus, parce que nous, on est de plus en plus paranoïaque, donc on fabrique de plus en plus d'autisme. Hein? Quand Dolto dit que l'autisme croît, je pense qu'elle a bien aperçu que ça, dans sa carrière, que ça avait augmenté. Parce que ça... Hein? Vu que le crime paranoïaque est devenu crime de masse avec Auschwitz et Hiroshima, d'ailleurs c'est pas la même histoire dans chaque cas, le crime paranoïaque. Mais là, c'est devenu des crimes de masse. Eh bien, on a quand même un indicateur certain, c'est qu'on est de plus en plus paranoïaque, puisque il n'y a pas que Hitler et Truman qui sont des paranoïaques. Il y en a de plus en plus. Les auteurs des années 20 et 30, ils étaient très intéressés par cette histoire. Donc, vous avez Jean Genet les bonnes, Lacan les sœurs Papin, la paranoïa telle qu'on traite comme expérience mutuelle d'Ali, Salvador Dali. Bon, et puis vous avez Musil, vous avez Mussburger, lisez l'homme sans qualité. Un chapitre sur trois, vous avez l'histoire de cet assassin, de ce colosse qui a massacré une femme, une prostituée dans un terrain vague. On voit bien qu'en parallèle à l'histoire du héros qui est mathématicien, dans un petit état d'Europe centrale avant le stalinisme, avant la chape de plomb, en parallèle de la vie du mathématicien, il y a une interrogation sur le crime paranoïaque. Donc, vous lisez l'homme sans qualité. En plus, si vous allez jusqu'à la fin, vous verrez, c'est achevé, mais il y a un des plus beaux chapitres qui nous disent. C'est le. La rencontre du frère et de la sœur, c'est un inceste. Le héros va dans une île déserte avec sa sœur, où il est amoureux. et c'est magnifique. Bon, moi, je ne veux pas prêter l'inceste. Un psychanalyste, c'est prohibé. Moi, je reconnais que la prohibition de l'inceste, c'est quelque chose qui existe. Hein. Que Lacan a magnifiquement défini d'une formule. La mère reste interdite. C'est une phrase que vous trouverez à la fin de Kant avec ça. Lévi-Strauss, s'il avait lu ça, il aurait résolu les problèmes qui se posaient avec l'inceste depuis les structures élémentaires de la parenté. La mère, elle est interdite. Ça veut dire qu'elle est entre les dits. Vous voyez, elle est entre les différents instants de dire. Donc, vous avez là la question de la dimension du dire, de la dimension phallique, parce que ça devient phallique, ça s'accroche aux organes génitaux, mais pas seulement à partir du miroir. C'est dans l'image du corps que les éléments pointent. Là, Lacan, il écrit noir sur blanc, il met même en pointe, il le met entre guillemets, avec des gros guillemets, dans Subversion du sujet. Il dit, j'ai montré que la fonction des éléments en pointe, c'est le canal qu'emprunte la libido pour passer du corps propre à l'image narcissique. Donc les éléments en pointe, s'il n'y a pas d'éléments en pointe, c'est identique, c'est donc non spéculaire. L'objet devient spécularisé du fait de la dimension 3. Et c'est pour ça que vous voyez bien que, regardez l'exemple du fétiche que choisit Freud, c'est le nez, la brillance sur le nez, associé à un fantasme, le gland, son zoonose, mais c'est le nez. Les pieds, le fétichisme des pieds, il y a que quelqu'un ait une seule paire de godasses qui va dégueulasse, qui va complètement user jusqu'à la corde, ou qu'il en ait des milliers, parce que vous avez toutes les figures, n'est-ce pas? Vous voyez bien que le fétichisme des chaussures et des pieds est très très fréquent. Freud le note, c'est le dernier organe en pointe qu'on voit avant d'apercevoir le pubis de la mère et le fait que l'enfant constate qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de pénis. Bon, c'est un peu, tout ça c'est une façon de nous raconter des histoires, hein. Mais c'est quand même, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas vrai ce que raconte la psychanalyse, c'est pas vrai, mais c'est absolument irréfutable. C'est là qu'on peut avoir raison. La psychanalyse, elle est irréfutable. Lacan le dit, hein, dans le séminaire, il dit Popper a raison, la psychanalyse est irréfutable, c'est pas une science. Pour Popper, une science, c'est irréfutable. Mais, et il dit, c'est la métaphysique qui est irréfutable. Alors, est-ce que la psychanalyse, c'est une métaphysique? Ben non, parce que le seul ennui, si vous voulez, c'est que Popper, il imagine que des discours. Parce que c'est un mec sérieux, lui. Bon, ouais, c'est pas comme nous, on est rigolo. Lui, Popper, il s'intéresse qu'aux discours vrais, comme tous les scientifiques, comme tout le monde, bon, les journalistes aussi, mais vous voyez ce que ça donne. Bon, du coup, nous, on s'intéresse à la vérité, on s'intéresse pas aux choses vraies. Et donc, le discours analytique, contrairement au discours métaphysique, il est faux, mais il est irréfutable. Les idéologies, c'est faux et réfutable. La science, c'est vrai et réfutable. La métaphysique, c'est vrai et irréfutable. Et la psychanalyse, c'est vrai et réfutable. C'est faux et irréfutable. Si ce n'était pas faux, ce serait vraiment de la paranoïa. Parce que dire à un type qu'il a voulu baiser sa mère, baiser son père et tuer sa mère, c'est complètement faux. Désolé, moi, si quelqu'un vient de me dire ça, je fais comme Serge Bergerac, je lui dis, tu t'occupes de mon nez, tu vas voir, et je lui fais la tirade. Je le tue. Non mais, écoutez, il faut quand même être sérieux. Jamais personne n'a voulu, sauf dans les tragédies, disait Eschyle, Sophocle, bon, peut-être que là, on a voulu tuer son père ou coucher avec sa mère, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut démontrer le contraire. Personne ne peut garantir et démontrer qu'il n'a pas eu une tendance, une aventure, une tentative amoureuse et même érotique avec sa mère, hein, et ou avec son père, tous les deux, et puis qu'il n'a pas eu un certain goût du meurtre, l'assassinat, du massacre de son père ou de sa mère, pourquoi pas. Enfin, on pourrait, vous voyez, on peut sortir. Moi j'ai connu un type un jour qui est venu me voir, qui faisait une analyse, mais au bout de très peu de temps, lui, il n'arrivait pas tellement à rentrer même dans l'analyse, il était un peu fou, mais ce qui est apparu très vite, c'était que son problème et son délire, c'était pas du tout la. C'est pas le nom du père, mais le nom du père, c'est le nom de sa mère. Je dis ça comme ça, regardez. C'est quelqu'un qui était amoureux de sa cousine, qui était la femme de son cousin, qui était lui le cousin qui portait le même nom que sa mère parce que il était le fils du frère de la mère. Donc le type, il était amoureux du nom de sa mère. Et le nom du père, pour lui, c'était le nom de sa mère. Bon, donc vous voyez, les gens qui prennent Lacan ou Freud au pied de la lettre, il faudrait quand même qu'ils rentrent dans la dialectique. Donc ils lisent par exemple les stoïciens. Parce que c'est des choses comme ça. C'est pas, il n'y a aucun systématisme dans cette histoire. Mais vous voyez, et c'est même, il faut arriver à se convaincre que c'est faux. Mais que c'est pire, parce que c'est irréfutable, parce que personne ne peut prétendre démontrer que Freud se trompe. Et ça ne veut pas dire que Freud a raison. Ça ne veut pas dire que Freud, il a modifié la raison. Il a changé la raison classique. Et cet entre-deux, cette situation de faux irréfutable, c'est justement quelque chose de formidable, de magnifique. Que justement, tous les philosophes, épistémologues, scientifiques, tout ça, littérateurs même pourtant qui sont des spécialistes de ces choses, eh bien, même les littérateurs, ils ne s'y reconnaissent pas. Enfin, certains s'y reconnaissent un peu, mais ils font du... Voilà. Gens qui font de la littérature psychanalytique, donc je ne trouve pas ça intéressant. Oui, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais dire, parce que vous parliez de Freud, de Lacan, et pour dire pas Freud, donc le titre de vos deux textes là, qui sont sur le site.
Bon, les deux textes, les titres, il y en a deux qui concernent cela. Et ça, c'est pour l'instant tout ce que j'ai écrit à propos de l'écriture de la fonction paternelle, c'est sur le bon romain généralisé, c'est paru dans les cinq.
Mais d'accord.
Ça, c'est simple pour le site. Hein. Mais attendez, je vais rajouter, je vais préciser des choses. Mais c'est aussi sur le site, hein, il est déjà là. Ah non, il n'y est pas parce que les saints, ils m'ont demandé de signer un papier comme quoi je ne publiais pas moi-même le truc. C'est pour ça que j'ai pas envie de publier dans les saints, c'est embêtant.
Non, non, mais ceux qui le veulent, ils me le demandent.
Quoi, le texte?
Le texte, je l'ai sur ordinateur.
Quoi, le texte de le bon romain généralisé de les saints, bon. Non, mais moi, ça m'ennuie, cette histoire.
Le premier, ça va comment, donc, le narcissisme?
Alors, non, le premier, il y en a deux. Les deux, dans les deux, vous verrez, il y a le même chapeau. C'est le chapeau, c'est ce que je vous ai envoyé. Bon, mais n'allons pas trop vite. Je suis en train de vous expliquer autre chose. Alors, vous me posez une question sur ce que j'ai écrit au tableau. Ça, c'est indicatif, c'est ce qu'on va faire. On va pas le faire comme ça. On va le faire comme ça, mais...
On paraît pas.
Oui, voilà, par étapes. Puis pour savoir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous conduit là, c'est la fin de Lacan. Et il faut se référer à tout ce que Lacan a fait avant. C'est pour ça qu'on parle des séminaires en les nommant, hein, par leur nom, pas par leur chiffre. Parce que j'ai les écrits aussi, j'ai parlé de position de l'intention ce soir. La semaine dernière, j'ai parlé du texte sur l'identification de la dernière leçon de l'identification. Alors, je reprends, vous voulez dire quelque chose.
Quel est le discours qui est, dans ces conditions, vrai et irréfutable?
Vrai et irréfutable, c'est la métaphysique. Ah oui. Son auteur. Lui, il veut distinguer la science de la métaphysique. Donc, le discriminant qu'il utilise, c'est la métaphysique est irréfutable, il reconnaît, c'est vrai et irréfutable. On ne peut pas prouver le contraire. Alors que la science, elle est vraie et réfutable. La science expérimentale, elle construit des modèles de processus, hein, qui contredisent les théories pour justement qu'on en fasse d'autres. D'accord ? C'est un problème d'existence et pas d'universel. Une expérience de science, la science expérimentale, c'est ce qui intéresse Popper, c'est une question d'existence. Alors que, et pour lui, l'universel étant une non-existence, on ne peut pas prouver par une expérience que quelque chose n'existe pas. Parce que si on n'arrive pas à construire quelque chose par l'expérience, et ben c'est peut-être qu'on s'y est mal pris. Donc on ne peut pas démontrer des choses universelles par la science expérimentale. C'est ça, il lutte contre ça. Et il lutte surtout contre l'idée d'une logique inductive dans le laboratoire. Ça veut dire, il lutte à propos de la droite infinie. Hein, pour lui, et il a raison. Dans le laboratoire, dans les faits observables, dans les choses constructives, il n'y a pas d'induction. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'induction, vous savez? C'est lié parfaitement à la puissance. L'induction, c'est la démonstration par récurrence.
C'est corbeau, là.
Non, mais corbeau. Et surtout, c'est très simple. Regardez, l'induction, c'est quoi? C'est que vous avez une loi que vous observez pour un numéro N, bon, pour 1, 2, 3, 4. Et vous arrivez à démontrer par l'écriture, donc c'est pas du laboratoire, ça, c'est des mathématiques, c'est de la logique. Dans l'écriture, vous avez de la récurrence. Si j'arrive à écrire une loi pour N et de montrer que si c'est vrai pour N, je peux démontrer que c'est vrai pour N plus 1, comme c'est vrai pour 1, 2, 3, 4, pop, c'est vrai pour n'importe quel nombre, jusqu'à l'infini, pas jusqu'à l'infini, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'à l'infini, mais c'est vrai aussi grand qu'on veut aller, ce sera toujours vrai. Bon, ça, ça s'appelle l'induction, l'induction arithmétique. Bon, et bien, Popper, il dit, comme Hume, c'est, il reprend Hume, Popper, c'est un Humeien contre Kant. L'universel ne nous intéresse pas et il n'y a pas d'induction. Et on ne peut pas démontrer quelque chose pour tout. Quand on démontre quelque chose pour tout, l'induction arithmétique, vous remarquerez que l'induction, c'est de l'écrit. Mais ce que ne voit pas Popper et le cercle de Vienne, et c'est ça qui nous met actuellement dans une situation horrible, c'est que justement, l'induction, elle existe, mais dans l'écriture, et que nous, on arrive à la faire rentrer dans le monde, grâce à nos instruments. Et que nous sommes les vecteurs qui faisons rentrer l'infini dans le monde. Parce qu'il n'y a pas d'infini dans le laboratoire. Ça, il a raison. Et c'est ça qu'il ne voit pas. C'est que nous passons par des calculs qui passent par l'infini et qui donnent lieu ensuite à des expériences de laboratoire où il n'y a pas d'infini, mais il est condensé dans les lettres. C'est un fait d'écriture. Vous voyez, cette électricité-là qui nous éclaire, c'est pas le feu de bois, ça n'a rien de naturel. C'est un texte, Bachelard le dit, c'est un texte réalisé. Lacan le dit, le lemme qui se pose sur la Lune, c'est une formule qui atterrit sur la Lune. C'est des formules. Et nous ne savons pas ce que nous faisons. Quand nous condensons, vous voyez le mot de condensation, je ne vais pas vous faire, peur avec la, je sais pas moi, l'énergie atomique et tout ça, mettez pas les doigts dans la prise, vous allez recevoir du courant. Vous remarquerez que c'est du langage. Pourquoi c'est du langage, la prise électrique, les deux pôles, les deux trous? Dans les cours de l'électricité, on n'en parle jamais de ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, vous branchez là une expérience d'électricité sur la table, je branche sur la prise, ça marche, le courant tourne. Et qu'est-ce qui se passe là de l'autre côté? Vous savez ce qui se passe, la même chose que ce qui se passe sur la table, c'est un truc qui renvoie encore plus loin et plus loin. Ça renvoie jusqu'où? Jusqu'à une turbine. Jusqu'à quoi? Au fait que nous avons inventé un processus pour transformer la chute d'eau, hein, la turbine électro-hydraulique, la chute d'eau, la différence de potentiel entre le haut et le bas, on arrive, grâce à un mouvement de rotation, à transformer en une différence de potentiel. Et les électrons, ce n'est pas des petits grains, c'est des lettres E. E moins, c'est les électrons, c'est négatif. En plus. Bon. C'est des petites lettres, tout ça, qui circulent dans les tuyaux. Pas dans les tuyaux, dans les fils. Bon. Tout ça, c'est de l'écriture. Et qu'est-ce que c'est de l'écriture? Pourquoi c'est de l'écriture? Parce que justement, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça fait un, les deux. Vous voyez, Freud, il dit ça à Hume, Hume, il ne comprend pas. Je le comprends, moi, je suis aussi con que Hume, je ne vais pas cracher sur lui. Je n'aurais pas compris non plus. Freud, c'est génial, il dit, il y a nécessairement deux libidos, et c'est peut-être la même. Mais nous, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand c'était la même, et c'est devenu deux. L'important pour nous, c'est qu'il y en ait deux, vous voyez. Moi, je peux faire des expériences d'électricité parce qu'il y a deux pôles. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe derrière. Bon, ça, c'est Freud. Freud, c'est quelqu'un qui est de la raison. Alors, Jung, c'est un mec qui va regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il va commencer à faire un télescope pour regarder ce qui se passe dans les prises, voir comment... il verra rien du tout, puisque c'est déjà parti d'une différence, et c'est une différence à la fin. C'est que des différences qui peuvent se transposer, se traduire... On est en plein dans Freud, regardez, il dit l'appareil psychique, il se construit par transcription, transformation successive. Lisez l'esquisse, lisez les lettres à Fliss, lisez la lettre 52, ce que j'ai mis là au tableau, vous voyez, c'est des transcriptions successives. Donc la parole, elle est là déjà, et alors, ce que découvre la psychanalyse, c'est que la parole, elle s'arrête quelque part par là. Ça s'appelle le transfert. La parole, on ne sait pas comment ça a commencé, à part le trauma. Bon, c'est un geste de Lacan qui essaye de louer le truc d'une manière extrêmement élégante. C'est traumatique, pourquoi, dans la famille des parents? Je vous dis, le principe du trauma, c'est la contingence. C'est parce que ça vient toujours trop tôt. qu'est-ce que ça va faire le trauma entre les parents? C'est pas le coït des parents de Freud, c'était une intuition de Freud. Mais vous voyez qu'il sait que c'est la contingence des traumatismes, puisque il dit à l'homme au loup, il commet l'erreur de dire à l'homme au loup, c'est fini dans le monde. Et nous, ce qu'on peut savoir, c'est que tout ce qui précède le temps du sujet, si on va trop vite, c'est ce qui nous justifie de ne jamais accepter qu'un patient dise c'est fini demain, c'est fini maintenant, j'arrête mon analyse. Jamais l'accepter. Mais on l'accepte parfaitement, mais notre rôle est de ne pas y croire tant que le sujet ne le fait pas lui-même. Vous voyez ? Parce que sinon, c'est traumatique. Si c'est moi qui décide à la place du patient, c'est traumatique. Ça justifie de. Vous voyez, tout le monde se marre, parce que tout le monde croit que c'est facile. Alors, vous voyez, on est comme ça. Et Lacan, quand quelqu'un lui disait, bon, bah, écoutez, j'en ai marre, demain, je m'arrête. Très bien, il disait bon, allez, au revoir, à demain. Alors lui, on se marre, il pense que Lacan est un clown. Un clown, c'est quelqu'un de logique, c'est un logicien. Le problème, il est à demain. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous dis à demain. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut être cohérent. Freud, il n'était pas psychotique avant, il n'est pas psychotique après. Les psychiatres sont là en train de croire que la psychose, ce serait comme si c'était inscrit dans les gènes, vous voyez, je sais pas, dans la cire de l'homme au loup. Il ne s'en est pas remis, voilà ce qu'on peut dire, du fait que de ne pas respecter la contingence. C'est pour ça que c'est l'analyse du trauma. Vous voyez, ça révèle le secret, pas le secret, la structure du trauma. Bon. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître ça, qui va le reconnaître? Puisque le patient, il ne s'en rend même pas compte. Quand les gens prennent un rendez-vous chez un analyste, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient aller chez le coiffeur, chez un kiné. Ça s'appelle psychothérapie. C'est un scandale. Et moi, je ne pratique pas la psychothérapie, ni la kinésithérapie, ni rien. Je pratique la psychanalyse. Parce que c'est une passion. Et puis parce que j'ai une dette vis-à-vis de Lacan, vis-à-vis de Sandy, vis-à-vis de Dima, vis-à-vis d'un certain nombre de souris. J'ai une dette vis-à-vis d'eux, parce que s'il n'y avait pas ces gens-là, je serais mort. Je pourrais bien tourner. Ça va encore. Donc, moi, vous savez, ça ne m'intimide pas du tout leur gesticulation, parce que je trouve que c'est magnifique. Devenir esthète à 24 ans, quand on ne comprend rien à rien du monde dans lequel on s'est plongé, hein, c'est à peu près le sort de tout le monde, et puis il y a tout le monde ayant des problèmes d'écriture, de parole et de lecture, et être obligé de passer sa vie à les planquer à ses voisins, à ses patrons, à ses collègues, à sa femme, à son mari. Moi, je vous raconterai des histoires d'analyse comme ça, je ne parle pas des patients, parce que je ne veux pas, je parle que de quelques cas anecdotiques des gens qui sont venus me voir une fois ou deux, mais je ne veux pas parler de mes patients. Parle de moi. Seulement le problème, je connais des histoires qui sont les vraies histoires cliniques, c'est toujours, toujours, toujours des gens qui ont, effectivement, vous ne pouvez pas savoir là, comment ça pourrit la vie, la difficulté de lire, d'écrire et de parler. Et que même ceux qui sont divins, magnifiques, enfin, je ne sais pas, moi je préfère Lacan parce que c'est, on voit, il y a le travail, c'est pas. Ça ne fait pas plaisir, mais ça se lit. C'est pour ça que j'aime les mathématiques, parce que on peut rentrer dans la question de la lisibilité et apprendre. C'est plus facile, les mathématiques, que la littérature, parce que la littérature, soit on aime ça, soit on n'aime pas ça, bon, on se laisse porter, mais ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose, ça s'apprend, mais c'est beaucoup plus incorporel. Il n'y a pas de... Vous voyez, la psychanalyse, c'est sûrement pas un endroit où on va avoir du talent. On va apprendre ce que c'est, comment faire. Mais ça ne veut pas dire non plus que si on a du talent, on va perdre ce talent, qu'il y a psychanalyse. Hein, ça, c'est les types qui disent que les types ont pu être créateurs s'ils s'analysent. Ça, c'est du Goethe qui dit que Hamlet, il est dans sa tragédie parce qu'il pense trop. J'ai jamais vu quelqu'un penser trop. Donc on peut faire une analyse même si on est un grand, je ne sais pas moi, un peintre, un musicien, un grand chirurgien ou un grand je ne sais pas quoi. C'est très très bien, au contraire. La psychanalyse, c'est quelque chose de magnifique parce que ça pose des questions basiques auxquelles on n'a jamais pensé. On n'a jamais pensé suffisamment. Et puis, il y a quelques allumés qui ont essayé d'y penser, puis ils ont donné des religions. Alors ça, il faudrait éviter que ce soit ça. Hein, les évangiles. Il y, y a de la sagesse là-dedans, mais c'est pas ça. Là. C'est comment interroger ces choses-là. Comment les interroger avec la science et malgré la science. Bon, on va s'arrêter. Et donc, le point, il est que la semaine prochaine, je voudrais vous traiter l'involution du corps de la bande de Mobius. Pour ça, je vous propose de lire la première leçon, la première ou la deuxième leçon du séminaire Problèmes cruciaux. C'est là que Lacan parle pour la première fois après Position de l'inconscient. Je vous ai cité la page 835 dans Position de l'inconscient, où il est écrit. Après, c'est dans le séminaire Problèmes cruciaux qui commence. Et ça culmine dans le séminaire, dans l'écrit qui s'appelle L'étourdi, au milieu. Un peu de topologie vient maintenant, et là, il ne fait aucun dessin, il décrit dans la langue le découpage du tor pour en faire une bande de Mobius. Voilà, vous avez trois occurrences, vous voyez. Et si vous voulez pousser l'enquête, si quelqu'un voulait pousser l'enquête, je proposerais que quelqu'un fasse un exposé. Et de comment Lacan parle de cette même transformation chaque année de son séminaire à l'école normale. Vous voyez, problèmes cruciaux, l'objet de la psychanalyse, logique du fantasme, l'acte analytique et d'un autre à l'autre. Chaque année, Lacan consacre une leçon à cette transformation du corps. Une seule leçon. Et ça vient comme un cheveu sur la soupe, paraît-il, pour tout le monde, alors qu'il en a parlé pendant 6 ans. Je ne comprends pas comment les gens font pour lire Lacan, parce qu'ils disent d'où vient cette histoire dans l'étourdi du tort coupé en bande de Mobius. Ben, ça vient du séminaire, et puis ça vient de Position de l'inconscient. C'est-à-dire que justement, ça concerne ultimement ce passage de la métaphore à la mélodie. Et comment ça circule là-dedans.
C'est comme ça. Voilà. Un peu de topologie, évidemment.
Je montrerai le lien qui est entre ça, ce schéma, et cette histoire de Thor et de bande de Mobius. Bon, là, on s'arrête. La semaine prochaine. Et si quelqu'un veut faire un exposé, je suis partant. En présentant les différentes leçons de Lacan traite ce point.
Merci de mettre votre participation dans le chapeau pour accompagner la salle.
C'est gratuit pour ceux qui veulent, et ceux qui veulent aussi donner, participer, donner une contribution. Il faut compter à peu près entre 5 et 10 euros par soirée, parce qu'on est combien là, on est même pas 20. Donc entre 5 à 10 euros, ceux qui veulent donner quelque chose sur la date, ou même pour faire une leçon la prochaine fois ou l'autre fois. Il n'y a pas de. Je tiens à ce que ça reste gratuit pour ceux qui ne. Y raison, ne payent pas. C'est tout à fait acceptable.